Vous écoutez France Culture.
Je veux que tout change.
Vous entrez dans les ateliers de la nuit, vous êtes à Brest. Thomas Baumgartner est en direct. C'est la 11e édition du festival Longueur d'onde. C'est le rendez-vous des amoureux du son et du Finistère mélangés. Brest, ça sonne au mois de février comme la radio hors les murs, hors studio, à ciel ouvert et au grand air. Nous sommes en public au petit théâtre du Quartz, où les écouteurs vont se mettre à parler, où les parleurs vont être à la hauteur de leur réputation, où les micros se tendent la perche. Chaque art a son festival. Celui-là est un moment particulier pour la radio. Il nous rappelle à quel point nous sommes curieux les uns des autres, auditeurs et parleurs. Comme la radio rêve parfois de se taire pour monter le son de ce qui se passe de l'autre côté, dans la tête de l'auditeur, dans sa pensée, dans sa vie. On réalisera ce soir une partie de ce fantasme avec les chroniques brestivales qui vont à la rencontre des gens d'ici. Nous sommes dans un théâtre ce soir, et c'est profondément de la radio, un face-à-face. Une scène et un public, un parleur et des auditeurs, et le son qui vient de part et d'autre. Vous êtes, à Brest et ailleurs, face à Thomas Baumgartner, et c'est ensemble que vous allez faire une nouvelle heure de radio. Pour commencer, comme il est toujours histoire de son et qu'il faut faire sonner les idées, c'est une proposition de Thomas, il me l'a écrite comme ça. Nous allons commencer par l'axe Br-Br, c'est-à-dire la liaison Bruxelles-Brest, avec Yves Robic, premier invité ce soir sur la scène du Quartz. Belle soirée et belle radio à vous.
Allô, maman. Coucou, oui. Maman, c'était bien. On a été voir tonton Rémi. On a fait une balade. On vient d'avoir terminé de manger. Comment ? Non. On a mangé le dîner à la maison. Bien. Là, on est dans la cabine téléphonique. Le gîte. Ah, le tonton. Il a des cheveux blancs. Non, pas du tout. Va-t'en, maman. Je peux pas lui dire qu'il est gros.
Mais pourquoi pas s'il est gros?
Oh, bon, d'accord. Il est gros. Oui. Non. Il est vieux. Il est un peu plus petit que papa.
Eh oui.
Un petit centimètre. Oui, il est à la... Oui, il est rigolo. Oui.
T'es rigolo.
Il est black comme papa.
Comment?
Pourquoi on met une bouteille?
Comme ça, l'eau descend doucement dans la terre. Je suis pas obligé d'arroser tous les jours. Il aura de l'eau toute la journée, toute la soirée. Ouais, je suis assez solitaire. Hein, c'est... Bon. Je vis seul, déjà, il y a déjà une raison.
Tu n'as jamais cherché à te marier ou ça n'a pas été...
Non, enfin... Ouais. peux pas dire. J'ai jamais essayé. Si, j'ai quand même essayé, mais. Bon, je dois pas être facile à vivre non plus. Et puis, bon, ben. Là, après, quand tu commences à t'endurcir, que tu prends de l'âge, c'est pas facile, hein. Parce que si tu arrives à 35 ans, que tu trouves une minette de 18 ans, non, ça va pas trop non plus. Hein. Ouais. C'est ça le problème. Alors, bon, ben, ça s'est pas fait, puis après, bon, fais une croix. Quoi. Une aventure par-ci, de temps en temps, puis terminée. Hein.
Bonsoir. Bonsoir Yves Robic.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir au Quartz, en direct, à Brest, pour le festival Longueur d'onde. Là, on vient d'entendre un extrait d'un documentaire. Alors, je ne sais pas si on peut dire un documentaire. Enfin, en tout cas, d'un essai radiophonique, on dit
oui,
parfois aussi.
Plus juste, ouais.
Voilà, qui s'appelle Entre les lignes, ouais. Et qui a reçu le prix Longueur d'onde, ouais, en 2011.
Ouais.
Et dans mon souvenir, je crois que c'était un prix qui vous est revenu relativement à l'unanimité du jury. Ouais. Est-ce que vous réécoutez ce passage où on entend votre fille, où on entend votre oncle? Est-ce qu'on vous écoutez entre les lignes volontiers? Est-ce que vous réécoutez entre les lignes volontiers?
Volontiers, oui. Fréquemment, peut-être pas. Après, c'est vrai que c'est un documentaire... comme j'en discutais avec Anne-Claire du festival, qui est diffusée assez régulièrement, qui est assez régulièrement écoutée, et qui fait que je crois quasiment, je crois tous les mois, depuis, enfin peut-être pas tous les mois, mais tous les deux mois, je reçois un mail d'une personne qui l'a écoutée. Donc c'est vrai que je me dis que c'est une histoire qui doit raconter quelque chose aux gens. Donc oui, je le réécoute avec plaisir, pas si fréquemment que ça, mais en tout cas, il m'est souvent revenu. Voilà.
Vous avez dit que ça circule, alors le son circule ?
Eh ben, il semblerait.
Oui.
Voilà. Oui. Ben, c'est vrai qu'en plus, ben voilà, le principe du podcast, le principe du net fait que, ben voilà, c'est des travaux comme ça qui étaient un peu éphémères deviennent plus pérennes du coup avec le support du web. Donc ça, c'est clair que ça change un peu la donne.
On va en reparler d'entre les lignes ce soir avec vous. C'est une production d'atelier de création sonore et radiophonique de Bruxelles.
Oui.
Vous habitez à Bruxelles ?
Moi, j'habite à Bruxelles, oui. Et depuis, 3 ans, 4 ans, j'ai la nationalité belge. Donc, je suis belgo-breton. Voilà,
donc, il existe donc cet axe Bruxelles-Brest.
Bruxelles-Brest, oui. Il est méconnu, mais il existe. Voilà.
Et vous, en ce moment, vous êtes un peu plus brestois que d'habitude ?
Oui, parce que moi, en fait... d'un point de vue de la Bretagne, je suis plutôt originaire du Morbihan. Enfin, mon père était originaire du Morbihan. Et là, plutôt brestois, parce qu'effectivement, dans le cadre de cette édition, il y a eu la proposition d'organiser de nouveau des écoutes publiques autour de ce documentaire-là. Et puis, dans le prolongement de ce travail, et pour être sur quelque chose peut-être d'un peu plus aussi actuel, je suis resté... une huitaine de jours en résidence pour développer un projet sur lequel je travaille actuellement.
On va en parler de ce projet-là. Ces huitaines de jours, c'est une sorte de petite résidence que vous avez ici. Est-ce que vous êtes un homme de tentative, d'essai ?
J'essaye.
Ouais.
C'est pas toujours simple. Voilà, pour la raison qui est très vite apparue après la finalisation de ce projet-là, c'est qu'il y avait toute une part intuitive qui avait été au démarrage du projet d'Entre les lignes, qu'à mon goût, je n'étais pas arrivé à maintenir suffisamment longtemps. Et du coup, la forme finale s'était agrégée dans quelque chose de plus construit, on va dire. Et donc, depuis la finalisation de ce projet-là, maturer l'idée de travailler sur une forme qui me permette de conserver le plus longtemps possible un rapport intuitif que j'ai de manière générale aux choses et au son en particulier.
Mais effectivement, entre les lignes, il y a une histoire, il y a quelque chose de construit, qui n'est pas forcément d'ailleurs en ligne droite, heureusement, mais il y a une histoire qui est la vôtre, c'est votre histoire. L'enfant, la petite fille qu'on entendait, c'est votre fille, c'est Anna, et elle vous accompagne dans la rencontre, c'est l'histoire d'entre les lignes, mmh. avec un oncle, Rémi, que vous n'aviez pas vu au moment de l'enregistrement, depuis 35 ans, vous
oui,
avez dit ça.
J'ai trouvé 35, 40 ans, oui, quasi. Ouais.
Donc, c'est. Est-ce qu'il y a les lignes qui sont entre lesquelles on est, ce sont mmh. aussi les lignes de lecture.
Oui, tout à fait.
Puisque votre fille, qui a 7 ans, je crois, à ce moment-là.
Oui, à ce moment-là, oui.
Elle apprend à lire. Mmh. Elle aime bien, d'ailleurs.
Oui, ça, oui. Ça s'entend.
Ça s'entend. Oui, oui. Et finalement, vous réapprenez quelque chose, votre famille, elle apprend quelque chose, c'est mmh. la lecture et aussi la lecture de la famille.
Oui, oui. Oui, tout à fait. Oui, il y a cette double lecture, voire triple lecture, mmh. effectivement, sur le fait de. Oui, finalement, qu'est-ce que c'est que la lecture au final ?
Qu'est-ce que c'est que la lecture et qu'est-ce que c'est que ses origines ? Mais c'est quelque chose qu'on entend d'ailleurs dans un deuxième extrait qu'on va écouter d'Entre les lignes, dont on recommande plus que jamais l'écoute complète. Mais donc là, un extrait.
Ton papa, il a l'air un peu en colère.
Oui, il a l'air un peu en colère. Ouais, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des mots derrière qui expliquent.
Je sais pas pourquoi, mais parfois ça me donne triste de voir ton papa en militaire.
Ah oui ?
Ben oui, parce que je l'ai jamais vu.
Comment ça ? Tu veux quoi ? Ça t'embête de regarder les photos ?
Non, mais c'est pas ça, mais... J'ai pas comment dire.
Comment, ma belle ? Ça, c'est un jour de Noël, tu vois. Là, c'est lui en déguisé en clown, ça, c'est maman déguisée en clown. Oui, c'était fait.
Il a mis un truc sur sa tête, c'est pas vraiment sa tête.
Ouais.
Il s'est pas vraiment rasé les cheveux.
Non, il s'est pas vraiment rasé les cheveux, ça, c'est clair. Ouais, tu vois, c'est vraiment comme un clown, tu vois.
Ça fera souvent les clowns, ils sont comme ça.
Oui, tu vois, c'est des choses que t'achètes, tu mets sur la tête. Ça fait tout de suite une tête bizarre, mais même ma maman, elle s'est pas rasé la tête, regarde, tu vois.
Oui.
Tu as demandé le numéro de la chambre à l'accueil et puis, forcément, tu t'es perdu. Comme tu te perds toujours dans les hôpitaux. Tu arrives enfin à sa chambre, mais ce n'est pas lui qui s'y trouve. Un homme est là, de trois quarts, qui se peigne délicatement.
Ah oui. Ah oui, je t'avais
pas trop
fait...
mal. C'est pas trop mal.
Ah bon. On va déposer. Et tu coules dedans. Parce que tu veux venir arroser avec moi ?
Comment on dit bonjour en breton ?
Il n'y a pas de bonjour en breton.
Ah oui.
Il y en a qui disent, oui, on traduit, mais c'est la traduction française. Day mat, c'est-à-dire un jour bon. Mais je sais pas. Moi, j'ai jamais entendu mes parents dire day mat. Par contre, quand tu arrives, les gens te demandaient, comment ça va ? C'est ça le bonjour. Comment ça va ? Ils répondaient, ça va, en breton.
Je me demande bien pourquoi je ne sais pas parler breton, papa. Parce que t'es breton.
Voilà. Anna, qui, dans ce Entre les lignes, votre fille Ivromique, qui a toujours la phrase qu'il faut au moment où il faut et qui soulève tout un pan, justement, de cette histoire que vous allez reconquérir pour vous dans cet Entre les lignes. Donc, prix longueur d'onde. On est à longueur d'onde ce soir au théâtre du Quartz, le petit théâtre du Quartz à Brest, en direct et en public. Et donc, cet Entre les lignes, ces phrases précises, de temps en temps, on a l'impression que vous enregistrez tout le temps. Et c'est ça qui vous donne cette matière-là. Comment vous fabriquez, comment vous enregistrez, Ivromique ?
Alors, en fait, pour cette séquence, pour toute la partie Bretagne avec ma fille, parce qu'il y a deux parties, il y a la partie Bruxelles, où là, on avait un rendez-vous assez fixe les dimanches matins. Par contre, en Bretagne, on était là 5 jours, et avec le preneur de son, Vincent Nouaille, on a pris l'option d'enregistrer au maximum de choses. Pour la simple bonne raison, tout à l'heure on parlait de cette question de l'intuition, c'est qu'effectivement quand je suis allé en Bretagne, je ne savais pas vraiment ce que j'allais chercher, puisque déjà il fallait que je voie si ça collait avec le tonton. Voilà, c'était pas simple. Et puis voilà, donc il y avait un certain nombre d'idées. Donc du coup, on s'est dit, on va tout enregistrer. Donc du coup, effectivement, ça a fait énormément de matière, mais ça a aussi permis d'attraper des moments comme ça.
Y compris donc cette conversation téléphonique avec Laurent tout à l'heure qu'on a entendu. On parlait d'une forme de résidence que vous menez en ce moment. Alors donc finalement, cette résidence ici, d'une part, ça vous permet de faire encore écouter entre les lignes.
Oui.
Il y a encore quelques jours, non?
Oui, il y a eu deux écoutes là. Oui.
C'est quoi les retours qu'on vous fait dans ces écoutes publiques?
Je crois que c'est toujours un peu... Bon, il y a des choses un peu personnelles, mais je crois que les gens sont... les gens avec qui j'en ai parlé sont touchés du fait de pouvoir raconter quelque part une histoire qui est, on peut dire, assez lourde, mais avec cette retenue qui permet, c'était ça un peu aussi le défi du projet. Et là-dessus, on avait beaucoup travaillé avec Carmelo Iannuzzo, qui est là ici, de l'atelier de création sonore. Il faut trouver la bonne distance sur le fait de comment arriver à raconter cette histoire-là en faisant une place à l'auditeur, à la personne. Voilà, donc du coup, les retours parlent surtout de ça, du fait que, voilà.
Que ça touche personnellement, que
oui,
ça peut être une part de notre
histoire.
Voilà,
du coup, c'est ça. Je crois que ça touche parce qu'il y a cette distance et que l'auditeur trouve une place.
Mais voilà. C'est vers ça que vous souhaitez aller, en cherchant toujours plus de place à l'intuition, comme vous disiez à l'instant?
Oui. Mais en même temps, c'était la discussion qu'on avait tout à l'heure pendant l'écoute de ce que j'ai travaillé ici.
Oui, au festival, tout à l'heure.
Vous oui, c'est ça. Tout à l'heure, écouter. À 17h, il y avait une écoute du travail que j'ai fait pendant la semaine. Et l'idée, c'est à la fois de travailler sur l'intuition, c'est-à-dire n'être pas immédiatement dans quelque chose de pensé, d'analytique, mais en même temps, de ne pas être dans la rêverie. C'est-à-dire quelque chose où chacun trouve midi à sa porte, c'est pas ça. C'est-à-dire arriver à trouver cet équilibre entre une forme ouverte, mais en même temps une dramaturgie sonore assez serrée pour qu'effectivement, il y a quand même des directions qui m'intéressent.
Alors vous travaillez sur quoi? C'est quoi ces directions justement?
Alors, là, c'est la colle, parce que pour l'instant...
Il n'y a pas encore de réponse.
Justement, il n'y a pas encore de réponse. Il y a des intuitions. Et effectivement, encore une fois, si je fais le parallèle avec Entre les lignes, c'est exactement ça. Jusqu'à une semaine avant la fin du montage, je ne savais pas encore exactement ce qui faisait que j'avançais dans cette histoire-là.
Est-ce que vous êtes aidé par les oreilles extérieures? Vous parliez de Vincent Nouaille, Christophe Faux qui a mixé Entre les lignes.
Au niveau de la réalisation, quand on était en enregistrement avec Vincent, c'était extrêmement précieux parce que le soir, en plus, autant j'ai essayé de mettre une distance au moment du montage, autant les soirs en Bretagne étaient quelquefois assez... chargé, on va dire.
Donc, ça aide l'intuition, ça, non?
Oui, tout à fait. Donc, du coup, il y avait effectivement la distance, c'est un concept. Après, il faut le mettre en œuvre. C'est pas toujours simple.
Et relire ses notes le lendemain matin.
Comment?
Et relire ses notes le lendemain matin.
Et relire les notes le lendemain matin. Donc, ça, c'est un temps. Après, effectivement, au niveau du montage et de la post-production, c'est vrai qu'avec Carmelo, on a beaucoup travaillé ensemble. Ça, c'est clair. Avec Christophe aussi, au niveau du mixage. Donc, effectivement, alors, c'est chaque fois des oreilles extérieures. Effectivement, c'est... là, en l'occurrence, tout à l'heure, quand on a fait l'écoute, c'était intéressant parce que il y avait un certain nombre de personnes qui ne sont pas tous forcément des praticiens. Et du coup, c'est intéressant de se dire, tiens, jusqu'à quel point mon concept n'est qu'un concept et jusqu'à quel point j'arrive à le retransmettre. Donc voilà, c'est un peu...
Ça s'appelle, pour le moment, Le souffle de l'arpenteur, c'est ça?
Voilà.
C'est un titre de travail?
En fait, c'était le titre de départ.
Ouais.
Et puis après, j'ai commencé à y travailler. On a changé le titre. Ça s'appelait une promesse que j'avais déjà commencé à travailler dans le cadre justement de l'atelier à Bruxelles. Et puis en reprenant le travail qui avait abouti, ce titre-là est revenu parce qu'il me semblait plus juste. Et je pense que jusqu'à maintenant, il a encore plus d'actualité, enfin, plus juste par rapport à ce que je cherche. Donc voilà.
La question du souffle, on a quand même l'impression de quelqu'un qui va chercher l'essentiel du son quand on parle du souffle. Hein, c'est l'unité de base.
Oui.
C'est, le souffle est vraiment ce qu'il y a en termes de son dans ce que vous êtes en train de fabriquer. Parce qu'il y a des histoires aussi qui se croisent.
Voilà, ben, c'est-à-dire qu'il y a le souffle du son, il y a le souffle, de, en l'occurrence par rapport aux histoires, il y a à la fois le souffle de la flûte, parce qu'il est question de flûte, le souffle d'un marcheur qui me raconte les 100 derniers mètres de son ascension d'un mont en Himalaya, le Gourla Mandata. Donc c'est cette respiration-là. Et puis il y a le souffle d'une sculptrice, le souffle que j'ai enregistré, sa respiration, d'une sculptrice qui va déterrer dans les landes irlandaises des pièces de bois millénaires, plurimillénaires même.
Sous la tourbe, elle creuse.
Sous la tourbe, elle creuse pour les déterrer. Donc voilà, donc c'est le souffle dans beaucoup d'aspects différents, en fait.
Extrait de ce travail en cours.
En cours.
En cours, encore en cours. Sans doute qu'il a même déjà changé depuis le
il
moment
où vous avez... Il a changé depuis que j'ai renvoyé le voilà, et puis donc, mais c'est toujours pas mixé, c'est toujours, voilà, donc c'est en chantier.
Voilà, entre sens et intuition.
Oui, voilà, c'est un peu ça.
Le souffle d'Arpenteur.
Cette montagne est très allongé, donc il y a un énorme trajet pour monter assez peu, et donc c'est très 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 long, jusqu'au moment où on est arrivé à ce qu'on appelle la rimée. Donc la rimée, c'est une crevasse qui sépare le glacier de la montagne. Tous les glaciers ont ça, alors elle est plus ou moins importante. Et là, c'est là qu'on se rend compte que les moyens physiques sont vraiment extrêmement limités. C'était, allez, sans exagérer, il y avait 50-60 cm de crevasse avec un espèce de talus en face. Donc il fallait faire un pas un peu plus grand, planter les piolets, se tracter et faire deux pas, même pas verticaux, mais plus raides, pour sortir de cet obstacle et reprendre l'ascension. Ça a mis un temps incroyable. Faire le grand pas, ancrer le crampon, je me souviens, j'ai mis sûrement 2-3 minutes de récupération. Planter les piolets, même chose. Ramener mon pied encore. Monter un pas, ça m'a pris 15-20 respiration, et sortir de là, c'était le quart d'heure facile, quoi, pour progresser d'un mètre finalement.
Le quart, tu dois le faire par là.
Voilà,
c'est-à-dire, ici, la moitié. Non, il faut ici. Regarde-moi comment je vais faire. Je dois ramasser mes lèvres. Voilà.
Ce sont donc, effectivement, des bogwood, des bois de tourbière.
Einstein reprend la formule de la transformation de Lorentz.
Ce sont des bois fossiles. Des bois fossilisés, mais pas en pierre.
Pour exprimer la cinématique qui devient donc une nouvelle cinématique.
Simplement, ils ont été engloutis dans la tourbe. Et la tourbe présente cette particularité d'être gorgée d'eau, mais d'être recouverte de sphaigne. Et donc, il n'y a pas d'air dans les tourbières. Et donc, le bois reste tout à fait intact dans l'eau, en fait. Et ce sont des bois qui ont entre 3 et 5 000 ans.
Mais il l'explique en disant que le temps n'existe plus, n'existe plus, n'existe plus, n'existe plus. N'existe plus.
Et donc, de nouveau, c'est leur redonner vie. C'est vraiment ça.
Henri, allez. Allez. Je suis une petite loutre. Bizarre, qui sait parler. Mais je suis une loutre.
Extrait d'un travail en cours qui change, un travail en cours que vous menez, Yves Robic, ce souffle de l'arpenteur. On entendait une phrase, le temps n'existe pas, vous, votre rapport au temps dans une fabrication comme ça, d'une production, où vous cherchez à laisser la place qu'il faut à l'intuition. Mmh. Donc aussi, c'est un rapport à soi-même, à sa propre création. C'est quoi votre rapport au temps? Vous vous donnez une date limite ou vous attendez que le fruit soit mûr?
Ce serait plutôt la deuxième option. Surtout par rapport à un projet comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, il y a vraiment beaucoup de sons. Bon, j'enregistre très, très souvent. Mm-hmm. J'enregistre et puis je stocke. Et puis je laisse... c'est vraiment laisser les choses se stratifier, se mettre en place... progressivement, et au bout d'un moment j'essaie de réorganiser parce que je réécoute, parce que voilà, et donc c'est vrai que du coup c'est, ouais, il y a une certaine lenteur qui est nécessaire pour voilà.
Est-ce que ça sert de ne pas être chez soi pour justement travailler dans ce sens-là en ce moment? Donc vous êtes à Brest, vous travaillez, vous faites écouter les choses. Souffle de l'arpenteur,
bah, on en discutait tout à l'heure avec Christophe Rowe, justement. Oui. Et ça change tout. Il y a quelque chose de. Enfin, oui, c'est très étonnant et en même temps pas du tout. Mais c'est vrai que de changer de contexte, c'est vraiment super important. Enfin, ça, il y a tout qui se déplace. Et là, actuellement, je suis en phase de montage sur un autre projet. Et effectivement, avec la personne avec qui je travaille, dans les moments un peu où on se dit il va falloir qu'on se mette, alors on loue quelque chose à l'extérieur et on va s'immerger. C'est important.
Merci beaucoup Yves Robic d'avoir ouvert avec nous cet atelier du son en direct et en public depuis le Festival Longueur d'onde à Brest. On est au petit théâtre du Quartz. On va continuer à discuter de son, évidemment. Vous restez avec nous. Et puis on ne peut que conseiller encore une fois l'écoute en ligne. Ça se trouve sur le site de la CSR, notamment l'atelier de création sonore radiophonique de Bruxelles, d'Entre les lignes. Et puis on va guetter le souffle de l'arpenteur. Merci beaucoup. Là, on entend un extrait d'une pièce intitulée « Irisation rituelle » signée du compositeur Alain Gossin. Il se trouve qu'Alain Gossin sera ici à Brest au Quartz la semaine prochaine, jeudi prochain même, pour la création mondiale d'une nouvelle pièce intitulée « Ça ne s'invente pas, le vent se lève ». Il se trouve que le vent s'est bien levé à Brest depuis aujourd'hui, a même empêché certains avions d'atterrir. Jeudi, ce sera une création par l'ensemble Sillage, là donc cette « Irisation rituelle ». Poursuit l'atelier du son. Alors, on voulait parler lors de cette émission d'une initiative très liée au festival, longueur d'onde au festival lui-même, ce qu'on appelle les chroniques brestivales, jeu de mots à la fois avec festival et avec estival, et avec Brest évidemment. Et donc, Fabrice Derval et Agathe Simonel se sont assis autour de la table. Bonsoir.
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 Bonsoir à tous les deux. Alors, les chroniques brestivales, on va en entendre une, mais alors les chroniques brestivales, ça a beaucoup à voir avec l'espace. On a parlé de temps, on a parlé de réflexion, d'intuition. Pourquoi pas d'espace aussi avec Yves Robic? L'espace est aussi dans cette idée des chroniques brestivales, dans ces portraits, en fait. Ce sont des portraits sonores qu'on trouve sur un site qui s'appelle Loufipo, l'ouvroir de finistérité potentielle. Alors, c'est quoi l'histoire, Fabrice Derval, de ces chroniques brestivales?
Alors, l'histoire de ces chroniques brestivales, ça remonte à 2008. Ça me concerne parce que je sortais en fait de mes études, je voulais faire un stage. Mm-hmm. Et j'étais en lien avec Longueur d'onde déjà depuis quelques années et je trouvais pas de stage, on voulait pas de moi, je sais pas ce qui se passait. Et en fait, je voulais faire un stage où je fasse du reportage, ouais. Comme ça, au jour le jour. Et avec l'équipe de Longueur d'onde, on a discuté et très vite est née cette idée de créer une sorte de contrainte comme ça qu'on créerait de voilà, réaliser chaque jour pendant, alors là la contrainte c'était 21 jours, mm-hmm. pendant 21 jours, un reportage de 3-5 minutes avec une thématique qu'on a cherché pendant plusieurs jours et on s'est stoppé, on va dire, sur une phrase d'Albert Camus au début de La Peste qui dit que la meilleure manière d'appréhender une ville quand on ne la connaît pas, parce que c'était un peu mon cas, je ne connaissais pas encore trop Brest, mmh. C'est de voir comment on y aime, comment on y travaille, comment on y meurt. Et donc voilà, à partir de ces trois thématiques-là...
Ça vous donne un programme?
Voilà, c'est ça, à partir de ça, bon, voilà, on a le micro en main et on part pendant 21 jours pour faire un reportage qu'on diffuse le soir même sur donc, la web radio de l'association qui était à l'époque Ousopo, ouvreur de sonorité potentielle, et qui est maintenant Oufipo. Enfin, c'est-à-dire que les chroniques brestiales maintenant sont plus liées à Oufipo qu'à Ousopo. Enfin,
on sent bien qu'il y a deux écoles. Agathe Simonel, vous êtes plus Oufipo ou Ousopo, vous, personnellement?
Oufipo, moi.
Vous êtes plutôt Oufipo, oui. Alors vous avez pris le relais de Fabrice Derval et vous avez livré quelques chroniques, quelques rencontres, quelques portraits sonores sur le même modèle, la même contrainte et l'ombre camusienne.
Alors non, moi c'était à partir d'une citation de Georges Perec.
Oui, voilà. Pas mal aussi.
Donc voilà, en fait, du coup, il y avait cette contrainte de partir d'un thème. Donc comme je ne connaissais pas Brest non plus, mm-hmm. Du coup, je suis partie sur son ouvrage Espèce d'espace. Et du coup, je me suis... Enfin voilà, j'ai la petite citation.
Oui, la phrase qui
donc,
nous sert
c'est, de démarrage. Voilà, je suis partie de « L'espace est un doute, il me faut sans cesse le marquer, le désigner. Il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné, il faut que j'en fasse la conquête. Mm-hmm. » Et donc, à partir de là, je me suis dit que j'allais travailler sur la conquête de l'espace et les astronautes de la Terre.
Les astronautes voilà. de la Terre. Voilà. Donc, la conquête de l'espace, c'est-à-dire la conquête de l'espace
brestois. Brestois, par ouais. les Brestois, mm-hmm. Voilà.
Et alors, vous cherchez qui dans ces rencontres-là? Et je rappelle, ça a été produit cet été une fois par jour, c'est ça? Une rencontre
voilà,
par jour.
Voilà, il y avait une rencontre par jour. Et en fait, du coup, c'était déclinable en plusieurs possibilités. Du coup,
il y a eu un marin.
J'ai travaillé avec des graffeurs, avec des personnes qui participaient à un jardin partagé à Pont-à-Nézène, un quartier de Brest. Avec un taxi, avec des adolescents. Enfin voilà, en fait, je le déclinais à chaque fois en fonction de ce que je pouvais observer aussi dans la rue.
Est-ce que vous avez l'impression que le son, ces reportages-là, et le son que ces reportages contiennent, permet de mieux connaître Brest quand on écoute la collection des chroniques brestivales, Fabrice Derval? Est-ce que c'est le but? Ou c'est une manière de donner un miroir aux Brestois, mes miroirs sonores?
C'est une manière complètement subjective de découvrir la ville, on va dire. Bien sûr, c'est complètement vain de vouloir découvrir une ville. L'idée de départ est vaine à la base. Hein. On ne va pas mieux connaître la ville, je pense, en rencontrant 20 personnes ou 10 personnes. Mais voilà, néanmoins, ça permet, on va dire, d'appréhender la ville d'une autre manière, c'est-à-dire de l'appréhender, là, en l'occurrence, à travers le regard des Brestois, en fait. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que, et typiquement pour ce qu'Agathe a fait, le rapport des Brestois à l'espace, voilà, c'est comment les Brestois appréhendent leur espace, à quoi ça ressemble pour eux. Alors vraiment rentrer dans leur tête pour se balader dans la ville. Voilà.
Tel qu'il se la représente. Il y a un exemple très parlant, vous avez rencontré Agathe Simonel, un non-voyant brestois. Mmh. Comment s'est passée cette rencontre-là?
Du coup, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de travailler sur un handicap, en fait, au niveau de la conquête de l'espace. Et après, c'est vrai que de travailler avec une personne aveugle me permettait aussi de travailler sur ce que lui développait, c'est-à-dire l'approche des sons et tout ça.
Y compris l'approche des formes architecturales.
Et des formes architecturales, ouais. Des volumes dans l'espace. Mmh. Et bon, ça, c'était un peu une découverte pendant, hein, parce que du coup, voilà, j'ai appris qu'on pouvait entendre les abribus.
Oui, ouais. C'est à ça que ça sert, les reportages aussi, pour leur porter en premier lieu.
Oui, voilà.
Découvrir un monde.
Et donc,
il s'est prêté au jeu, volontiers.
Oui, voilà. Et donc, oui, voilà, en fait, j'ai essayé de contacter donc, des instituts. Et j'ai cette personne qui s'est présentée et qui était disponible. Et donc, on s'est juste téléphoné. Et ensuite, on avait prévu un peu tout un dispositif où j'allais le rencontrer chez lui, etc. Mais on n'avait pas vraiment... on s'était dit les grandes lignes en amont, mais après, c'était un peu de l'improvisation.
Et ça donne une vraie rencontre et puis une vraie visite de Brest qui petit à petit apparaît à nos yeux d'auditeurs grâce à la rencontre que vous avez faite. On écoute.
C'est le bruit caractéristique de la canne blanche qui frotte sur le sol pour repérer tous les obstacles qui sont devant moi. Là, on s'entend ma rue, il y a deux contraintes. C'est d'abord vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle au sol que je pourrais heurter. Et ensuite, essayer d'aller tout droit. Et donc, je me dirige au bruit que font les voitures au fond de la rue, qui est dans la rue transversale, finalement. Donc, ça va être mon repère pour aller à peu près droit. Donc là, moi, je tourne à gauche, je suis le trottoir. Et là, je vais m'aider par la canne blanche, essayer de repérer tout ce qu'il peut y avoir sur le trottoir, et il y aura des choses, forcément. Et puis le flot des voitures à ma droite, qui vont me permettre de tenir à peu près l'axe dans lequel je vais aller. Alors moi je suis Bruno Kellec, j'ai une cinquantaine d'années et j'avais 25 ans quand j'ai totalement perdu la vue. J'ai toujours préparé mes déplacements, mes repérages. Voilà. Donc c'est parce que j'ai beaucoup préparé les choses, mais quand je dis j'ai, je pense que toutes les personnes déficientes visuelles c'est la même chose. On prépare les choses et à partir du moment où on a préparé, on se dit que voilà, on arrive à appréhender l'espace à peu près correctement. La difficulté pour repérer un poteau de bus, c'est quand c'est juste un... Alors quand c'est un arrêt, on entend que c'est un arrêt. Quand c'est un poteau, il ne faut pas le louper parce que sinon on passe à côté, on l'a pas. Voilà. Voilà, c'est celui-là.
Et comment ça s'entend un arrêt de bus?
Alors les personnes déficientes visuelles, plus on est aveugle, plus on le développe, ce sens-là, c'est ce qu'on appelle le sens des masses. C'est-à-dire que quand on suit quelque chose qui a une masse, comme un bâtiment par exemple, à un moment donné, s'il y a une rupture, s'il n'y a plus de bâtiment du tout, on entend une espèce d'écho qui change. Donc on sait que là, il y a un vide. Et bien, quand on longe un trottoir, si on passe devant un arrêt de bus, on sent qu'il y a une espèce d'abri, de cabane. Et comme on sait qu'il y a un arrêt de bus pas loin, on sait que c'est là. Je pense que c'est le bus.
Ouais.
Bonjour. Je descends à Kirby.
D'accord. Merci.
Quelqu'un comme moi ne voit rien. Pas de perception lumineuse, pas de couleur, rien, absolument rien. Donc on ne voit rien. Par contre, on perçoit effectivement un certain nombre de choses et qui ont tendance, et c'est un peu la plasticité du cerveau, à compenser le canal visuel, c'est-à-dire que le son, le tactile, l'odorat, le sens des masses, voilà, un certain nombre de choses se combinent pour remplacer la vue. Voilà. Et c'est comme ça qu'on compense un peu ce manque de vue. On a aussi beaucoup, par exemple, des cartes en relief pour nous aider, parce que ça, c'est compliqué. Ce qu'on arrive à imaginer en touchant, c'est dès qu'on peut toucher, ça nous aide. Par contre, un espace géographique, on ne peut pas le toucher. Personne ne peut toucher un espace géographique. Quand vous êtes à Brest, vous ne pouvez pas les toucher en face, Crozon. Alors, je n'ai pas de carte de Brest parce que je connais bien Brest et j'ai vu Brest. Sauf que Brest a changé. Par exemple, depuis que le tramway a été installé, alors moi j'avais une vision très claire de la place de Strasbourg, par exemple. Et aujourd'hui, la place de Strasbourg a été complètement modifiée, elle a été complètement refaite. Ben aujourd'hui, on est obligé de faire une maquette de la place de Strasbourg en relief pour l'expliquer aux déficients visuels comment est-ce qu'on pouvait se déplacer sur cette place de Strasbourg nouvelle sur laquelle il y a les piétons, le tram, le bus, les voitures où tout passe parfois au même endroit. Et c'est quelque chose qui est très anxiogène, la place de Strasbourg. Pas imaginé pour le déplacement des déficients visuels. Et donc, du coup, il a fallu l'aide d'une carte en relief, d'une maquette en relief pour essayer de comprendre un peu comment elle était faite. On va descendre.
Et voilà.
Merci. Alors, pour moi qui ai vu pendant 25 ans, j'ai tendance à m'appuyer, à utiliser tous les canaux qui me restent pour me recréer des images. Donc, je pense que c'est important d'avoir vu parce que ça donne une espèce de bibliothèque ou de bagage d'images sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est-à-dire que lorsque l'on me parle d'horizon, je sais ce que ça veut dire l'horizon parce que j'ai vu l'horizon. Alors après, c'est les couleurs qui sont impossibles à imaginer. Quelqu'un qui n'a jamais vu un ciel bleu, ça ne veut rien dire. Les couleurs, on les apprend. C'est pas inné, les couleurs. Donc, on se fait de toute façon des images mentales. Parfois fausses. Mais ce sont les nôtres. Voilà. Donc, je suis arrivé.
60 mètres. Voilà. Arrivez à la porte d'entrée. Suivez la bordure sur votre droite, puis la bande de guidage qui vous fera traverser le parking et vous mènera à l'entrée du bâtiment. Ouvrez la première porte. Puis la deuxième. Une bande de guidage vous mènera à l'accueil.
Voilà, une chronique brestivale et une visite de Brest en même temps, une manière de sentir la ville. Une rencontre avec Bruno Kelec que vous avez faite à Agathe Simonel qu'on peut entendre sur le site oufipo.org. Merci beaucoup à tous les deux, Fabrice Derval et Agathe Simonel, d'être venus nous parler de ces chroniques. Donc à écouter sur Oufipo. On continue. Demain à 19h, à l'auditorium du Conservatoire de Brest, on pourra écouter Faso Nord, qui est F-A-S-O, pour être très clair, et Nord, N-O-R-D, qui est une pièce sonore signée d'un créateur sonore brestois, Hugues Germain, qui est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Faso Nord, qui est une captation du désert.
Oui, une sorte de chemin que j'ai mené dans cette zone qui n'est pas tout à fait le désert, qui est le bord du désert, c'est le Sahel, donc nord Burkina Faso, donc Faso Nord.
Voilà. Quand vous entendiez à l'instant Bruno Kelec qui parlait du son dans l'espace, de ressentir l'espace par le son qui rebondit ou pas, ces vibrations-là, ça c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, relativement au centre de votre travail plastique, Hugues Germain.
Tout à fait. Enfin, et sous plein d'axes, aussi bien la vibration que le rendu d'espace avec le son. Là, dans ce qu'on entend, l'extrait qu'on a entendu, c'est donc enregistré dans un tout petit village. Et la latérite, le sol, c'est quelque chose qui vibre énormément. Et donc on entend tout le temps des pulses donc du pilon qui fait... C'est un battement de cœur, quoi. En battement de cœur qui est en même temps proche de Steve Reich, parce que c'est des rythmes asynchrones qui se calent et qui se décalent, donc on peut aussi l'écouter comme ça. Il y a plein de points d'entrée dans cet endroit que j'adore. Ceci dit, et c'est plutôt une bonne chose, il y a des petites meules électriques qui arrivent maintenant dans ces villages-là. Alors, oui, bon, il n'y a plus à piler, mais il n'y a plus le cœur qui bat non plus, donc c'est insoluble comme truc.
Il y a une installation que vous avez faite à Brest, je crois, les cylindres vibrants, c'était quoi ? Autre cœur qui bat, j'ai l'impression.
Oui, c'est comme une sorte de bateau en attente de partir, quelque chose comme ça, ou une forme suffisamment abstraite pour qu'elle puisse raconter plein de choses aux gens. Puis c'est quelque chose qui est là, qui fait du son, et quand on arrive, c'est commencé, quand on repart, ça continue, donc ça, c'est pas habituel pour le son, mais c'est vraiment ma manière de penser la composition dans l'espace, quoi. C'est-à-dire que c'est les gens qui font le début et la fin de ce morceau-là, quoi, en arrivant et en repartant.
À quoi ça ressemble, les cylindres vibrants ?
C'est très gros, très lourd, mais en même temps, ça se glisse comme ça dans le paysage sans, en ayant l'air de rien. Ça me correspond tout à fait.
En quoi ?
Ben, que c'est par exemple, le Sahel, c'est un travail énorme, ouais, avec un niveau de technicité... et puis je diffuse ça comme ça sans l'air de rien, quoi. Mais ça m'a pris toute ma vie, j'y ai failli laisser ma peau, enfin voilà, quoi.
Sur place là-bas ou en général?
Non, en rentrant, ouais. Je suis rentré avec, ouais, une hépatite et voilà. Ça faisait plusieurs années que j'allais en Afrique, donc je commençais vraiment à me sentir habitué. Puis là-bas, j'ai vu des puits où on entend au fond la nappe phréatique, puisqu'elle est quasiment vide, donc on entend une sorte de réverb incroyable. Mais sauf que quand on vous offre de l'eau en arrivant dans un village qui est très très difficilement refusable, c'est de l'eau qui vient de là, quoi, où il y a aussi plein de vaches, parce qu'il y a énormément de bétail là-bas, donc... Alors, tout ça se retrouve en bas. Et puis, bon, voilà, quoi.
Vous parlez de se glisser dans le paysage. Vous aimez le son qui est le son naturel, c'est-à-dire le son que vous entendez, vous. C'est ça que vous cherchez ?
Ça, c'est une très grosse question, parce qu'on est, y a jamais, on est toujours là en train d'écouter à ce moment-là. J'essaye d'en faire vraiment le moins possible. Je ne fais pas d'action, je ne vais jamais aller agiter quelque chose. C'est très rare qu'il y ait des voix. J'essaye que ce soit le plus intemporel, le plus... une forme d'abstraction, mais qui raconte quand même une histoire, qui raconte un chemin. Pour finir, c'est notre chemin à nous, quoi. Maintenant, c'est le mien, mais j'espère que chacun... Je crois que c'est assez large pour que chacun puisse faire le sien de chemin dedans.
Mais quelqu'un qui va enregistrer le désert en essayant d'en faire le moins possible, vous êtes dans l'amoindrissement, vous allez chercher l'infiniment petit.
Oui, c'est ce que je voulais, parce que j'avais le sentiment d'être vraiment complètement saturé d'images, de sons, au moment où j'ai démarré ce projet. C'était ça. J'étais complètement saturé. Je voulais essayer de retrouver un degré zéro pour pouvoir repartir et reconstruire. Et par chance, ça a fonctionné. J'ai même trouvé des liens avec ici, cet endroit que j'aime énormément, Brest. Le côté littoral, la limite, parce que là-bas, c'est un bord de désert. J'ai découvert aussi que Théodore Monod l'a très très bien dit, expliqué, raconté. Mais en faire... toujours bien de découvrir soi-même les choses, se dire, mais en fait, oui, le désert, on y va et on revient, mais on ne peut pas rester dedans, on ne peut pas y vivre, quoi. C'est comme la mer, c'est pareil.
Yves Robic, il y a quelque chose dans la démarche du Duc Germain qui ressemble à la vôtre dans Le souffle de l'arpenteur. Aller chercher cet infiniment petit, cette intuition, être en écho, l'écho entre le son et soi-même. Ou pas, hein.
Non, ce que j'entends, c'est plus le fait de Oui, qu'il y a un flou quand vous partez. C'est-à-dire ce côté allons voir, voilà.
Pas de parti pris au départ.
C'est ça. Ouais. Ça, là, de ce point de vue-là, oui, je me...
voilà. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci. C'est très bien d'avoir des invités comme ça. Hugues Germain, alors c'est quoi ce parallèle entre Brest et le nord du Burkina Faso là ? Creusons un peu ça. Qu'est-ce que vous trouvez ? C'est quoi ce parallèle entre ce littoral et ce désert et cette limite ?
C'est personnel, quoi, mais c'est vrai qu'on a besoin de... Moi, des fois, j'ai besoin de limites, pratiquant un art où, totalement, complètement libre de tout, où je n'ai jamais eu vraiment de limites dans les choses. Et la mer, au sens d'un bord, d'un rivage comme ça, c'est une limite crédible. Quoi. Une autorité, des choses comme ça, c'est toujours changeant. On peut toujours réussir à passer outre, etc. La distance, on peut s'affranchir de plein de choses, mais... une plage, un rivage comme ça, ça c'est quelque chose de crédible et qui existe, quoi, qui est solide, sur lequel on peut se simplifier la tête, quoi, parce que là-bas on ne peut pas y aller. Voilà, ça, au moins c'est déjà clair, ça fait déjà un bout de chose qui permet d'aller mieux. Quoi. Mm-hmm. Enfin, c'est pas d'aller mieux, ça.
Mais on peut s'appuyer sur cette chose définitive, en quelque sorte.
Oui, on peut... se tenir là au bord et regarder aussi, voir l'horizon, ça donne comme un fil dans la vie. J'ai ce sentiment-là. Quoi. Je peux pas en dire énormément.
Non,
plus,
mais le mieux c'est d'écouter plutôt que de longs discours. Écoutons un autre extrait de Faso Nord que vous ferez écouter demain à 19h à l'auditorium du Conservatoire à Brest. Voilà un enregistrement aux limites du désert sur lequel on va terminer cet atelier du son. L'équipe ce soir, c'était Benoît Gégou, Bastien Varigo, Sébastien Huel, chargé de production Dominique Allard et Inès Debrune qui prépare et coordonne l'émission, Véronique Lamandour à la réalisation évidemment. Longueur d'onde à Brest, ça se poursuit tout le week-end, venez nombreux, il y a toute une série d'émissions qui sont fabriquées ici, des écoutes, des rencontres. Demain par exemple à 17h30 pour France Culture du côté de chez soi, d'Ali Rebéi, à 19h c'est sur écoute d'Elisabeth Tchungi et plein d'autres choses encore. Merci à vous ce soir d'avoir été avec nous. Et là, il y a les yeux de Véronique Lamandour que je vois en face de moi, ronds comme des soucoupes, parce que nous avons quelques minutes d'avance. Nous sommes en direct et normalement, on rend l'antenne à 23h58 et il est 23h54. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est l'anniversaire de Véronique Lamandour en cette Saint-Valentin. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle veuille vraiment parler au micro pour saluer son public. Non, pas du tout, elle me dit que non. Mais il se trouve... Ah oui ! Non, elle ne viendra pas. Elle ne parlera même pas sous la torture, je la connais. Par contre, voilà, on va quitter le désert et il se trouve que Denis Charol, musicien, et qui s'occupe notamment, le grand gourou, de la compagnie des Musicaouir qu'on entend de temps en temps sur France Culture et notamment qui fait l'indicatif de la fabrique de l'histoire, et bien Denis Charol, accompagné des élèves de la 6e 6 du collège Raymond Poincaré de la Courneuve, et bien Denis Charol offre un cadeau sonore à Véronique Lamandour et on en profite.
Je vais. Oh.
Denis Charol avec les collégiens de la 6e 6 du collège Raymond Poincaré de la Courneuve. Je la vois, elle applaudit. Et pour terminer, je vais vous demander, on va vous mettre à contribution l'art sonore ayant le dos large. On va pouvoir peut-être chanter « Joyeux anniversaire ». Il y a des micros pointés vers vous. Là. Merci à vous, merci d'avoir été là ce soir dans le petit théâtre du Quartz à Brest. Longueur d'onde, le festival, ça dure jusqu'à dimanche soir. Venez nombreux, si vous êtes dans le coin, venez nombreux, même si vous n'êtes pas dans le coin. Tout de suite, dans quelques instants, tout de suite, vous retrouvez la voix d'Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture et à vendredi prochain.
Merci Thomas, belle suite de nuit à vous à Brest, où le festival Longueur d'onde se poursuit jusqu'à dimanche soir. On vous retrouve vendredi prochain pour l'atelier du son de retour à Paris, en compagnie du guitariste, bidouilleur de cordes, bruitiste Noël Acchoté. Dans les ateliers de la nuit, de la semaine qui suit, voilà ce que vous pourrez entendre. Mardi soir, c'est la deuxième soirée des textes en musique, enregistrée en public au Théâtre des Bouffes du Nord. Le comédien André Marcon a choisi de lire des extraits de Nausicaa, chapitre 13 d'Ulysse de James Joyce. Mercredi soir, Nous avons connu tant de guerres, de Marie-Hélène Bernard, partie recueillir la parole de femmes vietnamiennes dont la vie a été modelée par la grande histoire puisqu'elles ont traversé trois conflits, le Japon, la France et les États-Unis. Jeudi soir, c'est en secret une virée dans Paris la nuit. The Night of Loveless Nights, Robert Desnos, Ernest Pignon-Ernest, par Sophie Nolo, qui a suivi le colleur poète Ernest Pignon-Ernest, une nuit de novembre, alors qu'il collait sur les murs une image érotique inspirée des poèmes de Desnos. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, nous serons ensemble de 23h à minuit, et ce sera aussi une virée dans Paris la nuit, une émission en voiture, avec François Espéré, ancien officier de gendarmerie et auteur de Larron, un long poème épique sur les petits voyous du Paris nocturne qu'il a croisé et écouté pendant des années. N'oubliez pas de podcaster les ateliers de la nuit, il suffit de cliquer sur le site internet de France Culture. En attendant, vous passez avec Alain Weinstein du jour au lendemain.